On a tendance souvent à mettre des étiquettes sur les gens et quand on découvre leur histoire, quand on découvre leurs failles, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent finalement.
Guylaine Noëstenbach habite à Marc-en-Barœul dans la métropole lilloise. Et après une carrière notamment dans le domaine du social et de l'insertion auprès du département du Nord, elle poursuit avec l'écriture son envie de rencontrer des gens, de comprendre et de guider sur les chemins de vie avec ce qui construit et ce qui détruit parfois. Son premier roman se nomme « Le bocal de Capucine » et ce qui frappe quand on échange avec elle, c'est qu'on ressent bien que Guylaine Noëstenbach aime les gens.
Oui, c'est vrai, ça m'a toujours passionnée, donc j'ai fait un peu de psychologie aussi, 3 ans, et ça m'a toujours passionnée parce que je trouve que l'être est mystérieux. L'être est quelqu'un qui peut être en constante évolution, et quel que soit son passé, il y a toujours une faculté aussi de résilience, ou au contraire de repli sur soi, donc ce qui est plus affligeant, plus triste. Mais oui, c'est un vrai mystère en fait. Il y a plein de clés de lecture qu'il faut pouvoir chercher et chaque être est différent et singulier.
Le bocal de Capucine, c'est votre premier roman. Comment est venue cette envie d'écrire ?
Alors, l'envie d'écrire par elle-même date de mon enfance. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre un jour. J'ai toujours aimé le français, les mots, rédiger. Lire beaucoup aussi, je passais des après-midi à lire. Et là, ma motivation à écrire, ça a été de vouloir faire passer un certain nombre de messages. Non pas des témoignages, mais faire passer des petits messages en toute humilité, puisque je n'ai pas du tout la prétention d'être une professionnelle en la matière. Mais ça me semblait important. Donc au travers d'une intrigue, d'un roman, pour que ce soit plus fluide et plus agréable à lire.
Le titre du roman s'appelle « Le bocal de Capucine ». Alors on voit bien qu'il y a une métaphore derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, donc effectivement, le bocal, en fait, ça représente la bulle dans laquelle on évolue. Et l'idée, c'était donc de montrer que ce bocal pouvait s'agrandir, en fait. Hein, c'est l'espace des possibles. Et donc, je fais la comparaison avec les poissons rouges qui souvent sont seuls dans un local qui est restreint et qui meurent de solitude, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de quoi respirer et pas de quoi se mouvoir. Donc voilà, je fais l'analogie donc, en début de livre et en fin de livre aussi par rapport à cette image. Oui.
Sans tout dévoiler, est-ce qu'on peut avoir un peu l'histoire, la galerie des personnages, sans tout dévoiler évidemment ?
Alors l'histoire elle-même, c'est l'histoire de Capucine, donc, qui est une jeune femme d'une quarantaine d'années. Elle a tout pour être heureuse, visiblement. Mais elle ressent un certain vague à l'âme. Il va y avoir 2 événements dans sa vie qui vont la bousculer, à savoir un héritage et une rencontre. Donc l'héritage, en fait, c'est ce qui va représenter le nœud de l'intrigue dans le bouquin. Elle va hériter d'une tante qui est la sœur de sa mère, et donc en toute logique, ça aurait dû être sa mère qui hérite et non pas elle. Donc au fil de l'histoire, on va découvrir des secrets de famille qui vont expliquer pourquoi c'est elle l'héritière. On va découvrir des non-dits, on va découvrir l'histoire de la maman aussi. Et donc l'autre événement, c'est la rencontre avec un homme qui est de passage et qui a un mode de vie radicalement différent du sien. Donc ces 2 événements vont la bousculer, vont l'amener à s'interroger sur sa vie, sur ses choix de vie. Donc ça parle beaucoup aussi des choix de vie, des postures de vie, de la manière de regarder la vie et d'en faire quelque chose, ou pas d'ailleurs. Pour ce qui concerne les personnages, il y a 4 personnages principaux, donc Capucine, qui est quelqu'un donc, de réfléchi, de posé. Il y a Juliette qui, mange la vie par les 2 bouts, qui fonce, qui ne se pose pas de questions du tout, qui est vraiment dans l'immédiateté. Il y a la maman de Capucine, donc Suzy, avec qui elle entretient une relation un peu toxique, dont elle va apprendre à se défaire. Et Pierre, donc le fameux homme qu'elle va rencontrer. Et puis, je ne vais pas dévoiler la suite. Contre toute envie, Capucine écouta les messages sur son répondeur. Encore elle. Sa mère d'abord, avec sa voix stridente et son ton péremptoire. Tu ne m'as pas appelé pour me demander si j'allais mieux ? Tu te souviens encore mon numéro ? J'en doute, tu m'as encore oublié. On n'a qu'une maman, tu sais, alors ne la néglige pas.
Il y a l'intrigue, il y a l'histoire, il y a des thèmes aussi qui sont abordés dans le livre.
Oui, donc j'évoque, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, les choix de vie, les postures de vie, mais aussi l'intuition, la force de l'intuition, de la petite voix qui vous amène à avoir envie de faire quelque chose qu'on n'écoute pas parce que le mental prend le dessus et on regrette souvent. La loi de l'attraction, puisque je suis persuadée qu'on crée sa propre réalité. Et donc, j'essaie de l'expliquer, mais de manière simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut le vivre aussi, je pense. Donc voilà, toutes des petites choses comme ça à toucher du doigt et qui pourraient donner envie, effectivement, d'aller plus loin au lecteur pour mieux comprendre ce que ça révèle comme réalité, en fait, ce que ça reflète comme réalité.
L'histoire, vous l'avez placée dans la région ?
L'histoire se passe effectivement dans la région. Bon, j'avais plaisir à décrire certains lieux hein, où je suis amenée à me balader ou à visiter assez régulièrement. Oui, donc c'était une source de plaisir pour moi que de pouvoir parler de la région, effectivement. Oui.
Vous avez utilisé une forme stylistique qu'on ne voit pas souvent. Très souvent, les citations, on en voit au début de chapitre. Mmh. Ensuite, le chapitre se déroule et vous avez fait l'inverse. La situation est à la fin. Pourquoi ?
Alors, j'ai préféré mettre les citations à la fin pour qu'elles soient véritablement le reflet du fil conducteur de l'idée que je voulais faire passer dans le chapitre. Personnellement, quand je lis, s'il y a un proverbe ou une citation en début de chapitre, j'ai l'impression, je reviens à la fin du chapitre pour relire la citation. Parce que j'ai l'impression de ne pas percevoir tout de suite l'essence du message, en fait. Donc pour moi, ça semblait comme une conclusion en fait, d'un chapitre sur un message à faire passer. Hein, je le perçois comme ça. Et c'est quelque chose qui a retenu l'attention de pas mal de personnes qui souvent me disent « mais telle et telle citation m'ont frappée ». Mais c'est aussi parce que j'ai lu juste avant et donc du coup, je me suis arrêtée sur la citation et je l'ai mieux comprise.
Il y a des choix aussi que vous avez fait dans l'écriture, c'est qu'il y a de la musique dans le livre avec des choix musicaux. On entend Clapton, on entend Reggiani. Pourquoi ces choix ?
Alors, il y a deux motifs, je dirais. Le premier, c'est que j'ai essayé dans le livre d'être vigilant à ce que ça s'adresse autant à des personnes qui ont un mode de communication visuel, auditif, kinesthésiste, etc. Donc, j'ai tenu à ce qu'on puisse faire valoir les cinq sens. Et l'autre raison, c'est que j'aime beaucoup la musique. Donc ben là aussi, j'ai eu plaisir à faire des recherches. Et j'ai voulu aussi m'appuyer, notamment pour la fin de mon livre, sur un hymne à la vie, donc des chansons qui rendaient hommage à la vie. Donc là, en l'occurrence, c'était une chanson de Reggiani sur le temps qu'il me reste et puis l'hommage à la vie. Il faut rire, il faut chanter, il faut profiter. Enfin, voilà. Voilà, en gros.
Écrire, ça procure quoi comme sensation ?
Du plaisir, bien évidemment. Il y a un côté mystérieux, je trouve, à l'écriture. Je dis souvent, finalement, j'ai l'impression que c'est un clone qui écrit aussi pour moi. C'est-à-dire que l'inspiration vient seule. Et en tout cas, personnellement, je vis comme ça. L'impression de vivre dans une bulle, mais en même temps une bulle qui est ouverte à la réalité. Puisque quand j'écris, j'ai l'impression que plein de choses convergent vers moi pour me donner des idées pour écrire. Donc, c'est comme si on avait une paire de lunettes différentes. On est plus observateur, plus à l'écoute. Et encore une fois, le quotidien alimente aussi l'inspiration. Donc, c'est très plaisant, oui.
J'aimerais vous faire réagir sur l'essence de ce livre, parce qu'on a l'impression que chacun détient en soi des ressources pour avancer, pour grandir et pour s'ouvrir à des possibles.
Oui, j'en suis vraiment convaincue. Alors, je pense qu'on peut être amené, comme je disais tout à l'heure, soit des épreuves de vie ou même votre histoire de vie ou votre enfance, hein, pour commencer par là. Vous forge et ensuite on peut être amené à évoluer, donc soit on s'appuie sur ses propres ressources soit on s'appuie sur les autres, mais je pense que la meilleure ressource c'est soi-même. Encore faut-il pouvoir s'appuyer sur des gens, des personnes qui sont à l'écoute, qui sont chaleureuses, qui sont empathiques aussi et peut-être aussi sur des professionnels, donc des personnes qui vous aident dans votre résilience, en quelque sorte. Mais les épreuves de vie peuvent aussi, comme j'en ai connu, bon, mais voilà, pas non plus catastrophique, peuvent aussi vous amener à vous poser, à réfléchir, et puis à dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie, du reste de ma vie.
Est-ce que ça veut dire que, dans le livre, on a l'impression que... Il y a des petits conseils qui sont donnés comme ça au fil des pages. Vous l'avez fait. Alors c'est un roman évidemment. Hein, c'est pas un guide de vie, mais on a quand même des choses autour du développement personnel dans le livre.
C'était une de mes intentions. Il y avait le plaisir d'écrire, mais aussi l'idée de faire passer un certain nombre de messages sur les choix de vie, sur les postures de vie, sur des outils aussi à utiliser. Bon, des petites choses toutes bêtes. Hein. Moi, je sais que chaque soir, je me dis, bon, j'essaie de trouver 3 points positifs dans ma vie. Souvent, alors, ça peut aller je caricaturais un moment d'amour jusqu'à un bon petit verre de vin. Donc, ça peut embrasser toute une palette, en fait, de choses. Mais bon, je pense que la manière de regarder sa vie est importante, ou de minimiser ou de relativiser certaines choses.
Quels sont les projets après Le Bocal de Capucine ? Il y a un autre roman qui est en cours d'écriture ?
Alors, j'ai un autre roman, effectivement. Donc, je connais mon intention, pourquoi je veux l'écrire, le contexte, les personnages. Bon, je suis encore à la recherche d'une intrigue parce que, personnellement, j'ai besoin d'avoir un fil conducteur quand je lis, hein, dans un livre, qui me donne envie de tourner la page pour savoir comment ça va se passer après. Donc, j'ai des petites idées, mais qui restent encore à maturer, je dirais.
Si on lit sur Internet les premières critiques, je cite, il y a une personne qui a écrit « Je crois que Capucine va me manquer ». Et je trouve que c'est un beau compliment. C'est comme les romans où on s'attache tellement aux personnages qu'on ne veut plus les quitter.
Beaucoup de personnes m'ont renvoyé le fait qu'ils se retrouvaient dans certains personnages, ou dans ce qu'ils avaient pu vivre ou qui vivaient encore. Hein. Donc ça résonnait, comme on dit. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, de pouvoir coller à la vie quotidienne des personnes, en fait. Oui.
Est-ce que vous avez en tête, là comme ça, une citation que vous aimez autour de la vie, des choix de vie, comme un mantra ?
Moi, je sais que personnellement, j'ai un mantra que je m'efforce aussi à répéter. C'est « La vie m'apporte tout avec amour, facilité, joie et gloire ». Mais pas dans le sens, pas dans le sens orgueilleux du terme, hein, mais dans le sens rayonnement, en fait. Et donc voilà, ça m'arrive de temps en temps de répéter, puisque je fais un peu de méditation, de répéter ce mantra. Et puis, je m'évertue aussi à relativiser les incidents. Bon, après, j'ai eu une épreuve de vie où j'ai perdu mon mari. Donc, je pense que ça m'a beaucoup bousculée par rapport à... Ça m'a aidée à remettre des priorités dans ma vie. Hein, et c'est important. Voilà. Donc, à chaque fois, je me réinterroge par rapport à ça.
Combien de temps ? Combien de temps j'ai encore ?
Guylaine Noé-Stenbach pour son premier roman, Le Bocal de Capucine, aux éditions Nombre 7. Un reportage d'Arnaud Darras pour RPL Radio.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
J'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste.